UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Mesdames et messieurs, bonjour, nous revoilà sur la radio UMH à l'université Miguel Hernández d'Elche sur la Costa Blanca, Alicantine, espagnole, bien ensoleillée dans la très belle région de Valence, pour une nouvelle émission en français, en version originale, donc en version originale français déjà depuis 12-13 ans déjà, ça, que le temps passe vite. Eh bien, dans cette nouvelle émission en français, avec Pierre Vivès et moi, bien sûr, eh bien, nous avons toute une panoplie de sujets, une belle variété de points d'intérêt à aborder, à évoquer avec notre invitée, performante, dynamique, pleine d'initiatives à son jeune âge, 25 ans, l'incroyable et résolutive Katia Beniger. Bonjour Katia.
Bonjour Pierre, comment vas-tu?
Ça va très bien. Alors, qui est Katia Beniger? C'est la question qu'on va se poser. Eh bien, c'est quelqu'un qu'il faudra définir avec 30 minutes simplement. Je me dis, si on aura le temps de le faire, c'est peut-être pas si évident que ça. Déjà, d'emblée, une assistante de langue précieuse au collège lycée IS Tirán de Blanc à Elche, ici même, sur la Costa Blanca. Qui est venu dynamiser le français, la langue française et les différentes civilisations qu'elle véhicule, et surtout et encore, pour nous, une chance, une opportunité de l'avoir parmi nous, une dose vraiment importante de bonne humeur, une attitude et un modèle pour nos jeunes apprenants dans le cadre de l'enseignement et de la vie ici en Espagne. Alors, soyez la bienvenue ici aux émissions de Radio UMH. Et on va essayer de découvrir Katia Beniger, d'accord? Alors, j'ai quelques questions préparées pour vous. On se vouvoie, on se tutoie, c'est comme vous voulez.
On peut se tutoyer.
On se tutoie, d'accord. Je vais faire une exception, c'est compliqué ici pour moi. On se tutoie donc. Alors, Katia Beniger a une double appartenance culturelle et linguistique. D'où vient Katia Beniger?
Alors, tout d'abord, j'ai grandi en Algérie. À l'est, plus précisément à Naba. Et puis j'ai grandi en France à partir de l'âge de 11 ans jusqu'à mes 22 ans. Et puis j'ai décidé de déménager et de quitter la France pour l'Espagne.
Donc à Naba, l'ancienne Beaune en français, voilà, maintenant à Naba, d'accord. Et vous parlez de l'Espagne. Parce que vous avez quand même une formation en espagnol. Alors, la question qui se pose, pourquoi l'espagnol?
Alors, je ne saurais pas le dire. J'ai découvert l'espagnol au collège en quatrième, exactement. J'ai appris quelques mots au début, des bonjours, comment allez-vous, voilà, des trucs très simples. Et très rapidement, je suis tombée amoureuse de cette langue.
D'ailleurs, c'est une belle histoire d'amour. Et vous êtes doué pour les langues, donc vous avez déjà à la base donc l'arabe, le français et l'espagnol. J'assure que vous, que tu le maîtrises également d'une manière assez impressionnante, si je puis dire. Et votre mission quand même en Espagne, c'est de ne pas parler en espagnol dans les cours. Et c'est difficile puisque tu adores l'espagnol. Et j'ai des questions par rapport à ça. Alors, l'autre jour, j'étais présent, donc je peux en parler. Vous avez proposé à des lycéennes vraiment remarquables, en première, primero de bachillerato, un cours vraiment, il faut en parler très positivement, avec lequel il est possible de réaliser des débats quand même assez pointus, quand même assez complexes. Tu leur as posé, j'ai du mal à tutoyer à la radio en fait, quand je parle en français, de répondre à deux questions. La première, le français, une langue élitiste?
Oui, en effet. Pour moi, le français est une langue à manier avec précaution. Parce que, bon, toutes les langues sont à manier avec précaution, car les mots en général peuvent être une arme comme être un remède. Voilà. Mais le français peut être utilisé d'une manière beaucoup plus importante. J'avais évoqué avec ces jeunes filles l'art oratoire. L'art oratoire, c'est la manière de bien parler. D'accord? Et la manière de bien parler aujourd'hui, donc cet art oratoire, n'est plus enseigné à l'école. Avant, il l'était. Maintenant, il ne l'est plus. En tout cas, en France. Il ne l'est plus et il est enseigné que dans des écoles d'élite. Voilà, les écoles des élites. Donc, les politiciens, les personnes qui ont une classe sociale assez élevée, etc., etc.
C'est le cas d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, qu'il est toujours très agréable d'écouter, puisque dans ses discours, c'est quelqu'un qui s'exprime très bien, qui vraiment maîtrise l'art oratoire. J'ai eu la chance moi-même d'avoir cette formation à l'époque. J'ai déjà un certain âge pour être votre papa. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Et en ce moment, en Espagne, il faut dire aussi que cet art oratoire manque atrocement, puisqu'il y avait trois pays, d'un point de vue culturel, qui ont toujours utilisé, enseigné cet oratoire. Pour l'espagnol, c'est l'Argentine. Les Argentins sont bien connus en raison de leur capacité pour l'oratoire. L'Italie aussi et la France. Et je regrette de vous entendre dire que ça se perd.
Effectivement, ça se perd. En tout cas, pour les écoles publiques, les écoles privées, certaines écoles privées donnent toujours des cours d'art oratoire, mais bien sûr, comme je l'ai dit, pour les classes les plus élevées. Effectivement, c'est dommage que l'Espagne manque de cours d'art oratoire. Mais c'est super important et je trouve que le français respecte bien en fait ce point de vue, ce point de vue d'élite, ce point de vue de apprendre à parler d'une manière correcte, d'une manière respectueuse et surtout de guider les pensées d'une personne en utilisant les paroles.
Et les paroles, ça évite beaucoup de violence quand on peut exprimer ces choses-là à travers la parole et non à travers des actes. Tout à fait d'accord. J'en viens maintenant à la deuxième question que vous leur avez posée, puisque j'ai tout noté, comme un bon élève. Alors, la voici. Alors, pourquoi étudier le français? Vous leur avez posé cette question quand même qui fait réfléchir. Pourquoi?
Alors, la question était à la base de pourquoi étudier les langues, mais je l'ai adaptée
Bien
pour
sûr.
elles en mettant le français, puisqu'elles adorent le français. Du coup, je vais bifurquer sur les langues en général, si ça ne vous dérange pas, si ça ne te dérange pas, pardon.
C'est bon.
En fait, l'apprentissage des langues n'est pas juste un hobby. Il permet biologiquement de développer le cerveau. Ça a été prouvé par des études scientifiques. Le fait d'apprendre des langues permet d'avoir un cerveau, des neurones beaucoup plus développés, surtout quand on apprend les langues des petits. Donc, du coup, ce qui fait qu'on évite un peu les pertes de mémoire, on a plus de rapidité à réfléchir, etc., etc. Et puis, ça permet aussi de ne pas perdre les langues, puisqu'il y a tellement de langues en voie de disparition aujourd'hui, ça fait peur quand même. Et il y a des dizaines et des milliers de langues qui sont en voie de disparition. Et le fait d'apprendre beaucoup de langues, ça permet de communiquer avec des peuples étrangers, hein, et aussi de permettre à ces langues de survivre, pardon.
Et je vous remercie vraiment de toutes ces réponses si enrichissantes qui font quand même réfléchir pas mal, puisque des langues, on en perd. Il y avait un exemple, en guise d'exemple, au début du XXe siècle, on a perdu une langue latine dont on ne se souvient guère, c'est le dalmatien. En Croatie, il n'y avait pas que des langues slaves, il y avait quand même une langue latine, on l'oublie souvent. Avant d'en arriver à une petite pause, je voudrais simplement que brièvement, ce serait quoi une journée type dans la vie d'une assistante de langue en Espagne, dans votre vie, par exemple.
Alors, une journée type, c'est se réveiller le matin pour
Déjà.
commencer, c'est un bon début. Et puis, aller au lycée, faire ses activités, partager des moments avec les élèves, avec les professeurs aussi. puis rentrer chez soi, déjeuner, se reposer un petit peu, et puis profiter du soleil de l'Espagne, en tout cas pour moi.
Parce que faut le dire, tu viens de Paris, c'est ça. Et c'est le ça. Soleil n'est pas toujours au rendez-vous. C'est le secret, le grand secret de la République française. C'est que le soleil est Paris, c'est surtout dans les films américains.
C'est ça, exactement. Voilà.
C'est pas toujours. Enfin, moi, je suis un grand amoureux de Paris, donc c'est ma ville d'adoption, en fait. Et même avec la pluie, c'est une ville qui a un charme fou. On va faire une petite pause musicale maintenant, simplement, puisqu'on est dans les sentiments. On pense donc à cet amour pour l'Espagne. Moi, je suis en train de penser à la France, à Paris, qui me manque aussi. Alain Souchon, full sentimental. Bon, après cette foule sentimentale, enfin voilà, qu'on trouve très, très sympa, très touchante, un véritable succès d'Alain Souchon en 1993. Voilà, on est tous sentimentaux, les sentimentaux. On aime les histoires humaines, c'est la raison pour laquelle on est là. Et on était en train d'évoquer cette nouvelle vie de Katia en Espagne, voilà. Et il faudrait peut-être aborder un petit peu quel est votre vécu au quotidien également dans le lycée. Quelles sont les études qu'on peut faire, par exemple? On va en parler un petit peu aussi. Quels sont les élèves et la formation qu'on peut avoir au lycée, en français, par exemple, entre autres?
Alors, on peut faire un BTS. Tourisme ou un CAP cuisine.
Alors, je vais simplement traduire pour si on a des personnes qui aiment le français mais qui ne savent pas ce que c'est qu'un BTS en tourisme. En espagnol, on appelle ça Ciclos Formativos Superiores. Enfin, c'est de la famille donc du tourisme. Et j'en profite simplement puisqu'on nous a contacté également, on nous l'a dit. Enfin, aujourd'hui, c'est le 28 mai. Alors, le délai d'inscription va prendre fin le 30 mai. Donc, si quelqu'un écoute cette émission avant, sachez que vous êtes encore à temps donc, de vous inscrire dans cette filière en tourisme, hôtellerie, restauration et autres. Voilà. Et cuisine également, mais ça, c'est bon. CAP, donc, c'est une formation de base en cuisine. Et encore
Et puis, les études classiques, comme dans chaque établissement, donc on a le collège et puis le lycée pour passer son bac.
Voilà, parce qu'en Espagne, c'est à savoir que, en France, il y a des établissements différents. On a donc l'école, le collège et le lycée. Alors qu'en Espagne, on a donc d'abord, c'est el colegio, c'est jusqu'à la sixième. Et après, à partir de la cinquième jusqu'à la terminale, c'est un même établissement donc, qui accueille donc, les collégiens, les lycéens, et voir les études, les formations donc, pour les BTS, et tous dans un même cadre. On peut donc y étudier le français, d'autres langues également.
Oui, l'italien, l'allemand, l'anglais, et il me semble que c'est tout.
Voilà, et puis les langues, donc les deux langues, nous avons ici donc, l'espagnol, le valencien ou catalan. Et voilà. Et comment se passent vos journées avec vos élèves? J'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu. Est-ce que vous voyez des différences entre les élèves français, les élèves espagnols?
Alors oui, effectivement, je vois une très très grande différence entre la France et l'Espagne. Les élèves ici en Espagne sont beaucoup plus libres, je dirais. Et un peu moins focalisé sur les cours et sur ce que dit le professeur. Alors qu'en France, c'est un peu plus strict, un peu plus rigide. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée que ce soit plus strict et plus rigide. Je ne sais pas non plus si c'est une bonne idée que ce soit laxiste. Mais effectivement, ça a créé une grande différence entre les deux.
D'accord, donc d'un côté, rigidité française, ce n'est pas un terme qui soit très beau, et laxisme espagnol, ce n'est pas très beau non plus. Il faudrait peut-être trouver un juste milieu, qui sait. En tout cas, il faudrait réfléchir. Alors, en tout cas, c'est bien de réfléchir à cette question et de l'exprimer à voix haute. Et je ne sais pas si vous souhaitez ajouter d'autres choses par rapport donc, à votre expérience dans le cadre éducatif en ce moment.
Alors, j'ai adoré les moments passés au lycée.
On est à la fin de votre parcours en ce moment, il faut le dire aussi.
C'est ça,
c'est bye-bye.
C'est dommage.
Oui.
Ça me fait énormément de peine de devoir les quitter. Je les adore vraiment, j'ai passé de très bons moments avec eux. Ils m'ont appris beaucoup de choses, même si je leur ai appris énormément de choses aussi. Mais ils m'ont appris beaucoup de choses.
Par exemple.
Déjà être un petit peu moins dur, un petit peu moins
c'est
dur.
Quelque chose.
Voilà, je suis arrivée avec une mentalité typique française, donc où tout doit être carré. Voilà, les Français sont très organisés d'habitude. Donc là, je suis un petit peu moins organisée, on va dire. Et puis plein de mots que je ne devrais pas citer, ce ne serait
pas
une
faire.
Bonne idée.
Oui. On va pas le faire.
Mais oui, effectivement, j'ai passé.
On le garde
très,
pour
très
nous. Voilà. Et simplement encore, je crois que pour les personnes qui s'intéressent donc à cette possibilité d'être assistant de langue, quelles sont les fonctions d'une assistante de langue? Quelles sont vos fonctions en fait?
Alors. Normalement, si on suit le guide de l'assistante de langue officielle, une assistante de langue est censée soutenir le professeur et aider les élèves à s'améliorer en langue et pratiquer surtout l'oral pour qu'ils puissent, bien sûr, apprendre de manière beaucoup plus simple, un peu moins de grammaire et un peu plus de jeu. Voilà, que ça soit un peu plus divertissant.
D'accord, c'est-à-dire d'une manière moins traditionnelle,
un peu plus ludique.
Plus ludique et une approche donc qui pousse donc l'apprenant à se retrouver dans une situation communicative qui pourrait être donc un peu plus réelle, si je puis dire, puisque l'assistant de langue ne peut pas s'exprimer en espagnol à la base.
Si, ça c'est à la base.
À la base.
À la base. Mais c'est très très difficile de ne pas s'exprimer en espagnol.
Légèrement, ne serait-ce qu'un peu.
C'est ça, parce qu'en fait, les élèves, le niveau, ça dépend du niveau. Voilà. Certaines élèves que j'ai parlent très très bien français, elles ont un très très bon niveau, donc je parle tout le temps en français avec elles. Mais pour des élèves beaucoup plus jeunes, comme primer de la ESO, segundo de la ESO, c'est très très compliqué pour moi de parler qu'en français, parce qu'ils ne me comprennent pas. Donc, à un moment ou à un autre, je suis obligée ou de traduire la consigne, ou de traduire quelques mots, ou essayer de leur expliquer directement en espagnol, parce que sinon, ils ne comprennent pas ce que je dis.
Il faut le dire aussi, c'est que la phonétique française, ce n'est pas toujours un cadeau quand on vient juste d'entamer un premier rapport donc, avec cette belle langue. Ce n'est pas toujours facile. Je voulais quand même vous poser une question. Enfin, également, par rapport à cela, on peut vous considérer donc déjà lié à l'enseignement. Est-ce que vous avez songé peut-être à vous y consacrer vous-même ?
Oui. Oui. J'y ai songé. J'adore l'enseignement. C'est pas mon but premier, c'est pas mon objectif premier dans la vie, mais j'adore l'enseignement. J'adore passer du temps avec les élèves, leur apprendre des choses aux gens. C'est une passion. J'aime moi-même apprendre beaucoup de choses pour pouvoir les transmettre. Et du coup, voilà. Et c'est exactement ce que doit faire un professeur, transmettre ses connaissances. Et puis, l'amour des langues aussi me permet de dire que, effectivement, transmettre une langue, ce serait top.
Justement, alors, auriez-vous des conseils pour ceux ou celles qui souhaitent se consacrer à l'enseignement?
Alors, accrochez-vous bien.
C'est parti.
Ça, c'est le début. Alors, si j'ai un conseil à donner, oui, effectivement, c'est accrochez-vous bien. Et puis, dans l'enseignement, le monde, il n'est pas que noir ou blanc. Il peut être gris. Il faut s'adapter aux élèves et non s'adapter à ce que nous, on connaît. Voilà. C'est les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se consacrer à ce
le
noble métier.
Le temps passe très très vite avec vous. Je crois que nous avons 5 minutes peut-être, plus ou moins, approximativement. Et il y a une chose que vous ne connaissez peut-être pas sur Katia Benidjer, mais elle a énormément de qualités, mais il y a quelque chose qui la rend spéciale. Elle m'en avait parlé, je n'y croyais pas, je me sentais comme Gérard Depardieu dans le film La Chèvre. Je suis très cartésien, donc je n'arrive pas à comprendre certaines superstitions, certaines croyances. Est-ce que la malchance existe ? Est-ce que c'est possible ? Vraiment, je me pose la question. Le mot « poisse », »,« mala suerte », »,« être une chèvre », comme dans le film voilà, célèbre avec Pierre Richard et Gérard Depardieu.
Bon, il y en a beaucoup qui sont comme toi et qui n'y croient pas.
Je n'y croyais pas. Je parlerai au passé maintenant.
J'ai pu être persuadé
que c'est fou.
Oui, effectivement. Mais bon, ils ne m'ont pas connue. Voilà.
Voilà.
Il faut me connaître pour avoir la preuve que la poisse existe. Effectivement, oui, je suis clairement une poisseuse. Mais ça, c'est depuis mon tout jeune âge, hein, ça ne date pas d'hier. Mon arrivée en Espagne a été très mouvementée, justement, grâce à cette poisse. Bon, je dis à cause, grâce, je ne sais pas. Mais oui, effectivement, c'est un fardeau que je porte.
Pourriez-vous nous évoquer
Une
une
anecdote?
anecdote entre autres, parce que c'est pas
Je ne
voilà.
saurais pas la choisir, je ne saurais pas la choisir, il y en a tellement, mais je peux, par exemple, vous dire que j'ai passé un mois sans eau et sans électricité en
Faut le
arrivant
faire,
en
hein.
Espagne.
Une championne.
Voilà.
Excusez-moi, j'en rigole parce que j'ai pu vivre donc toute cette histoire quasiment en direct, en live à l'époque.
C'est ça, voilà. Un mois sans eau, sans électricité. J'ai été agressée par un homme au katana.
Katana,
Oui.
ici, ça n'existe pas, c'est pas possible.
Eh ben avec moi, oui, ça
Voilà, non,
existe.
c'est fou, c'est fou.
Voilà, et puis j'en passe. Hein. Il y a un mois, je me suis retrouvée aussi sans eau. Voilà. Toujours les mêmes
Et il y en
histoires.
a, je confirme. Alors, pour clore cette émission, pour en finir, pour nous quitter, on va écouter comme musique liée donc à
À ma
cette
poisse.
circonstance. Alors, donc la musique d'un musicien d'origine roumaine que j'adore, Vladimir Cosma, qui a composé donc La Chèvre. La musique donc de 1980, qui a été un véritable succès, tout comme le film. Mais je vais vous passer donc, j'ai choisi quand même Le Grand Blond avec à la chaussure noire aussi avec Pierre Richard, parce que là aussi, est-ce que ce monsieur est poisseux dans sa vie? Je le crois. Donc, Le Grand Blond à la chaussure noire. Merci Katia Bénidjère. À la
Merci à toi,
prochaine, au
Pierre.
plaisir et
Avec
soyez les
plaisir.
bienvenus. J'aimerais bien vous retrouver prochainement à nouveau parmi nous, peut-être, qui sait, éventuellement l'année prochaine.
Avec grand plaisir, Pierre. Merci beaucoup.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.